Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon au sommaire de cette édition du jeudi 6 juin 2024. Au Soudan, des militants pro-démocratie font état de plus de 100 morts dans une attaque de paramilitaires. En Afrique du Sud, l'ANC tient des pourparlers avec divers partis d'opposition pour former un gouvernement d'union nationale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a conclu une tournée en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Les objectifs doivent être certainement multiples et en particulier de ne pas laisser le devant de la scène aux puissances occidentales.
Amadou Ould Abdallah du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara va tirer les leçons de la visite du chef de la diplomatie russe en Afrique dans la partie magazine. La France et le monde entier ont commémoré aujourd'hui le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Une frappe contre une école de l'UNRWA a fait une quarantaine de morts à Gaza. Ne manquez pas notre page de sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Soudan, des militants pro-démocratie affirment qu'une attaque menée par des paramilitaires, les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo contre un village, a fait une centaine de morts. Claire Morin-Gibou.
Les forces de soutien rapide ont attaqué hier le village de Wad al-Noura dans l'état d'Al-Jazira, dans le centre du Soudan, à deux reprises, avec de l'artillerie lourde, a indiqué le comité de résistance de Madani. Ce réseau d'entraide entre habitants indique avoir comptabilisé plus de 104 morts et des centaines de blessés. Les militants de ce comité affirment que les paramilitaires ont envahi le village, entraînant la fuite de nombreux habitants, et déplorent aussi que l'armée soudanaise appelée à l'aide n'est pas intervenue. En un peu plus d'un an, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, certaines estimations allant jusqu'à 150 000 victimes, selon l'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriello. À travers le pays et même dans la capitale Khartoum, les combats se poursuivent quotidiennement entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires dirigés par le général Mohamed Abdan Daglo.
Au Mali, un syndicat de travailleurs a appelé les employés des banques, des compagnies d'assurance, des institutions de microfinance et des stations-service à cesser temporairement le travail à partir de ce jeudi. Après l'arrestation de son secrétaire général, le CINABEF a déclaré que son patron, Amadou Ba, avait été arrêté hier mercredi. Par ailleurs, une coalition de partis politiques et d'associations connues sous le nom de Synergie d'Action pour le Mali a appelé à une manifestation demain vendredi pour protester contre le coût élevé de la vie et les coupures d'électricité. Reporters sans frontières exhorte le nouveau chef de l'État sénégalais à agir en faveur de la liberté de la presse après 3 années d'agression et d'arrestation de journalistes ou de suspension de médias sous la présidence de Macky Sall. En 3 ans, le Sénégal a reculé de la 49e à la 94e place au classement mondial de la liberté de la presse de RSF, explique l'ONG. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, tient des négociations internes pour décider comment former un gouvernement après avoir échoué à obtenir une majorité absolue lors des élections de la semaine dernière. Nani Talani.
Nous voulons impliquer tout le monde parce que les Sud-Africains veulent que nous travaillions ensemble pour eux, a déclaré ce jeudi le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula. Parmi les groupes en négociation figurent l'Alliance démocratique qui a remporté 87 sièges et les combattants de la liberté économique qui ont obtenu 39 députés et soutiennent la redistribution des terres et la nationalisation des principaux secteurs économiques. L'ANC est aussi en pourparlers avec le parti nationaliste Zulu Inkatha Freedom Party qui va détenir 17 sièges et l'Alliance patriotique anti-immigration qui aura 9 députés. L'ANC a également contacté à plusieurs reprises le parti Umkhonto Wesizwe de l'ex-président Jacob Zuma qui a remporté 58 sièges mais n'a reçu aucune réponse. De nombreux membres de l'ANC et certains alliés comme le parti communiste s'opposent à un accord avec l'Alliance démocratique favorisée par les investisseurs et le monde des affaires mais dont la politique est en contradiction avec les traditions de l'ANC. L'ANC est le principal parti d'opposition détient une confortable majorité au Parlement. Le nouveau Parlement doit se réunir dans moins de 2 semaines et l'une de ses premières tâches sera d'élire un président pour former un nouveau gouvernement.
Le Quai et Téhéran œuvrent à un développement des relations bilatérales en vue d'un rapprochement, indique la diplomatie égyptienne dans un communiqué, alors que l'Iran est engagé dans un processus d'apaisement régional avec plusieurs pays arabes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue iranien par intérim, Ali Bagheri, ont décidé de maintenir le rythme des consultations au sujet de l'évolution des relations bilatérales, mais aussi concernant les moyens de résoudre la crise actuelle dans la bande de Gaza, selon un communiqué. L'ex-ambassadrice de Libye à Bruxelles a été condamnée à 7 ans de prison pour corruption dans l'exercice de ses fonctions, a indiqué aujourd'hui le bureau du procureur. Le tribunal correctionnel de Tripoli a condamné l'ancienne diplomate Amal Djereri à 7 ans de prison après l'avoir reconnue coupable d'actes visant à obtenir des avantages illicites, détournement de fonds publics et atteinte à l'intérêt public, a indiqué un communiqué du bureau du procureur sur Facebook.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont retrouvés avec d'autres dirigeants sur la plage d'Omaha en Normandie pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement. La Russie, qui a contribué à la victoire sur le nazisme, n'a pas été invitée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était de la partie. Nathalie Barge.
Les dirigeants ont foulé la plage d'Omaha où les premiers soldats américains ont débarqué à l'aube du 6 juin 1944 et où les Alliés ont perdu le plus d'hommes face aux Allemands. Les grands invités d'honneur étaient 180 anciens combattants. Le président des États-Unis, Joe Biden, a rencontré 41 vétérans américains. Le président français, Emmanuel Macron, a décerné la Légion d'honneur à certains d'entre eux. Conséquence de la guerre contre l'Ukraine, la Russie, l'un des grands pays vainqueurs du nazisme, a été exclue des commémorations. En 2014, Vladimir Poutine était présent malgré l'annexion de la Crimée et il avait rencontré son homologue ukrainien Petro Poroshenko. Joe Biden a déclaré que la démocratie dans le monde est en danger. Le roi Charles III a estimé que les nations libres doivent s'unir pour s'opposer à la tyrannie. Le débarquement, organisé dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques, les Canadiens et les hommes du général de Gaulle, a ouvert la voie à la défaite de l'Allemagne nazie. Entre 50 000 et 70 000 civils ont péri sous les bombardements alliés en France, dont 10 000 en Normandie à l'été 1944.
Un hôpital de la bande de Gaza a fait état aujourd'hui de la mort d'au moins 37 personnes dans un bombardement contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne a revendiqué cette frappe et dit qu'elle visait une base du Hamas. Le point avec Rosine Monizero.
Des avions de combat de l'armée ont mené une frappe précise sur une base du Hamas située à l'intérieur d'une école de l'UNRWA dans la région de Nusayra, située dans le centre, a écrit l'armée israélienne dans un communiqué affirmant avoir éliminé plusieurs terroristes qui ont pris part, selon elle, à l'attaque du 7 octobre. L'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Bala a fait état d'un bilan de 37 morts. Le Hamas a condamné une guerre d'extermination et de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé qu'Israël a frappé sans avertissement préalable l'école où se trouvaient, selon lui, 6 000 déplacés. Le président Joe Biden a présenté une feuille de route proposée, selon lui, par Israël, qui prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de 6 semaines, accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de la bande de Gaza. L'Égypte affirme que le Hamas a promis de présenter sa réponse concernant cette proposition dans les prochains jours.
Un haut responsable du Hamas, Osama Abdan, a déclaré aujourd'hui que le plan présenté par le président américain Joe Biden la semaine dernière ne constituait pas une nouvelle proposition en vue d'un accord avec Israël pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages. Selon M. Abdan, le président démocrate a essayé de dissimuler le rejet israélien d'un autre accord présenté au début du mois de mai qui avait été accepté par le Hamas. Le Hamas est prêt à accepter un accord, a précisé M. Abdan, s'il comprend les exigences du mouvement palestinien, dont un cessez-le-feu permanent et le retrait complet des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Et l'Espagne est devenue ce jeudi le premier pays européen a demandé à un tribunal des Nations Unies l'autorisation de se joindre à l'affaire de l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide à Gaza. Le Mexique, la Colombie, le Nicaragua, la Libye et les Palestiniens attendent que la Cour internationale de justice de la Haye aux Pays-Bas approuve leur demande de participation à l'affaire. Israël ne nie ni commettre un génocide dans le cadre de son opération militaire visant à écraser le Hamas déclenché par ses attaques meurtrières du 7 octobre. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Kenya prévoit une croissance du PIB de 5,2% en moyenne sur la période 2024-2026, soutenue par des conditions météorologiques favorables au secteur agricole et une reprise de l'industrie. Les perspectives supposent des précipitations adéquates, le maintien du gouvernement sur la voie de la consolidation budgétaire et la mise en œuvre continue du programme de réforme structurelle du gouvernement. La Tanzanie veut emprunter 2,5 milliards de dollars à la Corée du Sud au cours des 5 prochaines années sous forme de prêts concessionnels, tandis que l'Éthiopie a signé un accord d'un milliard de dollars sur 4 ans pour les infrastructures, la science, la technologie, la santé et le développement urbain. Séoul tente d'exploiter un marché africain vaste, jeune et en croissance rapide. Pour terminer, ici aux États-Unis, la productivité non agricole a augmenté de 0,2% au premier trimestre, une baisse par rapport à une estimation initiale de 0,3% il y a un mois. Les coûts unitaires de main-d'œuvre ont augmenté à 4%, en baisse par rapport à la première estimation de 4,7% du Bureau des statistiques du travail. Les économistes prévoyaient une révision à la hausse des coûts de main-d'œuvre à 4,9%.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. La flamme, l'étincelle des Jeux Olympiques dans l'Hexagone depuis un mois.
Plus d'un million de spectateurs, des images à couper le souffle, que ce soit au Mont-Saint-Michel ou sur le viaduc du Milo. Le tout sans incident, la flamme olympique qui traverse la France depuis près d'un mois et s'apprête à partir aux Antilles, a jusqu'ici parfaitement lancé les JO. Dès l'arrivée de la flamme à Marseille à bord du Bel Aim le 8 mai, le temps a été donné en plus d'une foule de 200 000 personnes. Plus de 5,9 millions de téléspectateurs ont suivi le rappeur marseillais Jules allumer le chaudron dans une ambiance digne d'un match de l'OM.
Jeux Olympiques 2024, Coca-Cola et ses bouteilles en plastique, médaille d'or du greenwashing pour des défenseurs de l'environnement.
Plus de 10 millions de bouteilles en plastique seront distribuées par Coca-Cola pendant les Jeux Olympiques de Paris, occasionnant une pollution plastique injustifiée, dénonce mercredi le réseau France Nature Environnement qui décerne aux géants américains la médaille d'or du greenwashing. Sur la prévision de distribution et de vente de 18 millions de boissons, plus de 10 millions proviendront de bouteilles en plastique, calcule cette fédération d'associations de protection de la nature.
Dibu Martinez a décidé à aller au jeu, prêt au clash avec Aston Villa.
Tout à fait, le gardien de la sélection argentine, championne du monde en titre, Emiliano Martinez, a dit mercredi être prêt à aller à la confrontation avec son club anglais d'Aston Villa pour assouvir son désir de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je mets toujours l'équipe nationale argentine au premier plan et si je dois me battre avec mon club, je le ferai, a déclaré Martinez à la presse argentine lors d'un stage à Miami avec l'Albicéleste qui disputera deux matchs amicaux avant d'entamer la Copa América aux États-Unis entre le 20 juin et le 14 juillet. C'est un désir de jouer les Jeux Olympiques, mais cela ne dépend pas que de moi, a-t-il toutefois tempéré.
En Italie, la Lazio officialise le départ de Tudor après 3 mois.
L'entraîneur croate Igor Tudor a mis fin à son contrat avec la Lazio Rome après seulement 3 mois en poste, a annoncé le club de Serie A. Igor Tudor a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe première. Le club le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur dans ses vies professionnelles et personnelles, a indiqué le club dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon la presse italienne qui avait annoncé dès mercredi le départ de Tudor, l'ancien joueur de la Juventus était en désaccord avec ses dirigeants sur la composition de son effectif et des cibles pour le renforcer.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a terminé hier à N'Djamena sa tournée africaine. Il a promis une augmentation du nombre d'instructeurs militaires russes avant d'aborder les relations entre le Tchad et la France. André Kotbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Une visite diversement appréciée par les Tchadiens. Pour le juriste et écrivain Jean Bosco Manga, ce rapprochement soulève des questions sur l'évolution des relations entre le Tchad et la France, même si ce rapprochement n'implique pas une rupture avec la France.
Le Tchad pourrait bénéficier de cette diversification en termes de soutien militaire et économique, mais cela pourrait aussi engendrer des tensions avec la France et d'autres pays occidentaux. La présence russe pourrait influer sur la dynamique de la sécurité régionale, surtout dans le contexte du Sahel où les intérêts stratégiques des grandes puissances aujourd'hui se chevauchent.
Argument réfuté par le ministre tchadien des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Abdramane Koulamala.
La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens. Nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Nous sommes un pays souverain et nous développons les relations avec qui nous voulons et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons.
Le politologue et enseignant chercheur Dr Evariste Ngarlom-Toldé se dit pessimiste pour la suite.
Le Tchad, la Russie, la France, mariage à trois, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas trop. Alors après les états de l'AES, la France n'admettrait plus une telle humiliation, surtout que c'est Macron et la France qui ont installé l'actuel président à la tête du pays en lieu et place de son père. Donc ça serait difficile qu'aujourd'hui la France puisse avaler la pilule. C'est un risque même pour le pouvoir de chercher à remplacer les Français au Tchad par les Russes.
Pour le constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice, professeur Ahmad Mohamed Hassan, les propos du ministre des Affaires étrangères sont une fuite en avant.
C'est une déclaration très humiliante pour un pays qui est obligé de rappeler sa souveraineté dans une déclaration officielle. C'est comme si le Tchad a besoin de prendre en témoin la communauté internationale pour une éventuelle réaction négative de la France, puisque n'oublions pas que le Tchad reste le dernier bastion français en Afrique après la carence de la politique africaine de la France en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans d'autres pays. La déclaration du ministre des Affaires étrangères est très, très grave, humiliante, et c'est un aveu de faiblesse et de subordination.
Certains Tchadiens profitent de la visite de la délégation russe au Tchad pour demander au président de la République de rompre ses liens diplomatiques avec la France.
Nous approuvons la diversification des accords avec les pays qui le souhaitent. Et l'expérience avec la Russie peut être un pas pour notre affranchissement économique.
Le bishop Aman Mamate coordonne une association de la société civile tchadienne.
Nous invitons les chefs de l'État à explorer les voies pour nous unir au pays de l'AES, car seuls devant la France, nous ne tiendrons pas.
Pour Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, c'est aux Tchadiens d'établir la liste de leurs besoins. Il rassure que la relation que son pays voudrait entretenir avec le Tchad ne va pas déranger la France, car, dit-il, la Russie ne demande jamais à un pays de choisir ses amis, comme la France qui a une autre approche. André Kodumajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La visite de Sergueï Lavrov en Afrique s'inscrit dans la stratégie de Moscou pour accroître son influence dans la région. Pour comprendre les motivations de la Russie, Eric Manirakiza a joint à Nouakchott Amedou Obd Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Les objectifs doivent être certainement multiples et en particulier de ne pas laisser le devant de la scène aux puissances occidentales, le devant de la scène africaine. Donc, ni l'Europe, ni les États-Unis, et surtout à la veille de cette célébration des 80 années du débarquement. Je pense aussi qu'il y a des objectifs réalistes. Montrer aux Africains, en particulier Libye, Tchad, qu'on s'intéresse à eux, et également aux trois pays, Niger, Mali, Burkina. Donc l'objectif est vraiment pratique et je pense que ça peut plaire à l'opinion et au gouvernement de montrer qu'ils ne sont pas sous-estimés ou négligés. Mais tout cela est autour des intérêts de la Russie et en particulier dans le conflit qu'il oppose en Ukraine aux Occidentaux.
Et comment cela s'aligne avec ses ambitions géopolitiques globales, notamment dans le contexte des tensions avec l'Occident?
Ça se situe par exemple en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique centrale également, par quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, demander non seulement aux Français de quitter, mais c'est des relations classiques, mais demander aux Américains aussi, avec un délai fixe, de ne plus être présents dans le Sahel, ce n'est pas des choses qui étaient fréquentes ou qui étaient pensables il y a quelque temps. Donc l'objectif est certainement pas une alliance à long terme structurelle avec le Sahel ou l'Afrique de l'Ouest, mais surtout créer des problèmes pour les pays occidentaux. Et pour le moment, ça marche bien. Il faut dire qu'il est venu en terrain favorable. Des pays fatigués épuisés par des guerres qu'on dit contre les islamistes, mais qui sont en partie aussi des guerres tribales qui durent depuis plus de 10 ans, depuis 2011. Cette visite se situe dans un contexte plutôt favorable à la Russie, mais au-delà des gouvernements, surtout dans nos pays où parfois les gouvernements ne sont pas élus, et il faut penser aussi à la population. Donc si cette visite est suivie de, je ne dirais pas de propagande, de politique visant à convaincre l'opinion, en particulier des jeunes, elle peut réussir, elle peut s'ancrer, autrement elle risque d'être passagère.
Amadou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, les législateurs sont divisés sur le décret du président Joe Biden imposant de nouvelles restrictions aux demandeurs d'asile arrivant illégalement à la frontière sud. À l'approche des élections de novembre, le débat sur l'immigration reste une question difficile. Reportage de notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, récit Claire Morin-Gibou.
Le décret du président Joe Biden a pris effet immédiatement. Aucune procédure d'asile ne sera entamée tant qu'il y aura plus de 2500 arrivées par jour à la frontière. Colin Puzel-Cavano est analyste au Migration Policy Institute.
Il s'agit d'une tentative de limiter les stratégies irrégulières entre les postes frontières et d'encourager les gens à utiliser certaines des voies légales qui existent actuellement.
Au Capitole, les républicains du Congrès disent que le décret de M. Biden ne règle pas le problème. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants.
Il y a 126 jours aujourd'hui, Joe Biden a déclaré « J'ai fait tout ce que je pouvais faire ». On lui a demandé pourquoi il n'utiliserait pas son pouvoir exécutif pour s'attaquer à la catastrophe à la frontière qu'il a lui-même créée. Il y a 126 jours, il a regardé les caméras et a dit « Je n'ai plus d'options ».
Le présumé candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump et d'autres républicains font pression sur M. Biden pour qu'il aborde la question du nombre de passages illégaux à la frontière. Mitch McConnell, leader de la minorité au Sénat.
La plus grande erreur de cette administration, à mon avis, et toute cette crise remonte au moment où le président a prêté serment. Les politiques qu'il a menées ont créé la crise à la frontière et elle ne sera pas résolue par les décrets qu'il va prendre.
Mais les démocrates ont fait valoir que le décret était nécessaire, car les républicains ont refusé de voter en faveur d'un accord sur la frontière au début de l'année. Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat.
Les républicains ont d'abord dit qu'il s'agissait d'un projet de loi très bon et solide. Puis ils ont fait volte-face lorsque Donald Trump a été clair. Il voulait que le projet de loi échoue pour créer les chaos aux frontières. Nous préférons que les républicains se joignent à nous.
Dans l'État frontalier de l'Arizona, certains membres d'associations communautaires sont frustrés que les parlementaires américains ne soient pas parvenus à un accord sur l'immigration. Le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, a déclaré que le décret de M. Biden répond à certains des problèmes.
It's also a situation that's been unsafe for migrants, it's been unsafe for border patrol agents. Il s'agit également d'une situation dangereuse pour les migrants. Elle est dangereuse pour les agents de la patrouille frontalière et pour les personnes qui vivent dans ces communautés.
Mais l'Union américaine pour les libertés civiles a déclaré que les nouvelles restrictions de la procédure d'asile de l'administration Biden sont illégales et qu'elle va saisir la justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le vaisseau Starliner de Boeing doit s'amarrer aujourd'hui à la Station spatiale internationale lors de son premier voyage avec équipage. Deux pilotes d'essai de la NASA qui vont tester la capsule. Après des années de report et deux récentes tentatives, il a été lancé avec succès hier sur la fusée 5 du groupe ULA à Cap Canaveral en Floride. Les détails avec Nathalie Barge.
Boeing doit démontrer la fiabilité de son vaisseau avant de commencer des missions régulières, sachant que SpaceX d'Elon Musk assure le transport d'astronautes de la NASA vers l'ISS depuis 2020. Cette version Starliner a été baptisée Calypso en hommage au navire du commandant Cousteau. Les astronautes composant l'équipage sont Butch Wilmore, 61 ans, et Sonny Williams, 58 ans. Wilmore s'est montré optimiste, non sans cacher son impatience, quelques minutes avant le compte à rebours.
Sonny et moi sommes honorés de partager ce rêve de vol spatial avec chacun d'entre vous. Cela dit, allons-y, mettons du feu dans cette fusée et poussons-la vers le ciel.
Push it to the heavens.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starliner and Atlas V.
Les deux vétérans de l'espace en sont à leur troisième voyage à la Station spatiale internationale. Ils doivent revenir sur Terre à bord de Starliner dans une semaine et demie, pour atterrir le 14 juin dans le désert du sud-ouest des États-Unis à l'aide de parachutes qui le ralentiront à 6 km/h avant de gonfler des gros airbags. Williams et Wilmore ont participé au développement de Starliner. Après le décollage, les deux pilotes d'essai formés à l'US Navy ont testé le pilotage manuel. Des nouvelles fuites d'hélium ont été détectées en vol, mais ne présentent pas de danger selon Boeing, assurant que deux valves affectées ont été fermées. Une petite fuite avait déjà été identifiée avant le décollage.
Starliner Atlas. Looking good with speeds and attitude.
Good handle. Good handle.
Affaibli par des problèmes de sécurité sur ses avions de ligne, Boeing espère obtenir la certification de la NASA sur cette mission spatiale qui a connu plusieurs ratés depuis 2019. Starliner, sans équipage, est parvenu à atteindre la Station spatiale internationale pour la première fois en mai 2022. Après l'arrêt des navettes spatiales américaines en 2011, les astronautes de la NASA ont voyagé à bord des vaisseaux russes Soyouz. Si cette mission réussit, la NASA pourra utiliser des vols de Boeing et de SpaceX.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.